L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue, si vous voulez, vous pouvez être bienvenue, faites ce que vous voulez avec votre pilosité, blague à part. Bonjour et bienvenue dans le 274e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis comme à chaque fois une semaine sur deux, sauf l'été éventuellement où on est en vacances, avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Et nous allons vous narrer l'actualité dans l'informatique libre des deux semaines écoulées. Et on va commencer avec une pas bonne nouvelle, mais en même temps vous vous en doutiez. Si on ne vous dit pas quoi, vous vous demandez de quoi on parle. La vidéosurveillance algorithmique qui était censée être mise en place de manière temporaire le temps des JO. Que croyez-vous qu'envisage le gouvernement? Que personne n'avait absolument prévenu d'ailleurs.
Oui.
La quadrature s'en était pas émue, la Ligue des droits de l'homme s'en était pas émue, et bizarrement, on voudrait le généraliser.
Oui, et du coup, ça tombe bien que ce soit avec un ministre de l'Intérieur fasciste.
Encore plus quoi. Ouais,
ah bah non, je suis désolé, les propos qu'il a tenus, ouais, c'est non, mais, du fascisme.
Autant celui d'avant, quoi tu parles. Non, remise en cause de l'état de droit, franchement.
Bah,
encore celui d'avant, il faisait semblant. Oui, non, mais en fait, je suis pas vraiment d'extrême droite, mais je fais des clins d'œil d'extrême droite. Donc lui, il assume, tu vois. C'est...
Oui, voilà.
Oui, c'est assumé. Hein. Et quand t'as un barrage, hein.
Ouais, sans commentaire. Donc, ouais. Petit rappel quand même sur ce que c'est la vidéo sur surveillance algorithmique dont on parle. C'est très simple. Il s'agit de caméras qui détectent toutes seules les méchants criminels, de préférence de couleur. Mais c'est les algorithmes. Hein. Les algorithmes, il n'y a pas de biais, évidemment. Il n'y a jamais de biais dans un algorithme. Et donc, ça va détecter automatiquement et sans...
Comment dire ? Est-ce qu'il y a un biais dans l'algorithme ou dans les données qui ont servi à...
Étant donné qu'on parle d'intelligence artificielle, l'algorithme lui-même, en fait, c'est les données de l'apprentissage. Donc...
C'est ça que c'est compliqué avant. Parce que c'est aussi un changement de paradigme. C'est que l'informatique, telle qu'on l'a appris, on a appris à faire des algorithmes. Non, c'est un mot qui fait peur, mais non, ça veut presque dire formule magique. Mais un algorithme, c'est la logique induite par la programmation. C'est-à-dire que l'ensemble des opérations qui est faite pour mettre en place un programme informatique, c'est l'algorithme. Après, le code, c'est sa retranscription. C'est-à-dire, l'algorithme, c'est l'idée, et le programme, c'est le texte. Le code source, c'est le texte. Si on veut
le code source, c'est la traduction d'une idée en...
Maintenant, l'algorithme, c'est-à-dire que l'algorithme ne faisait pas ce qu'il voulait. C'est-à-dire, si un programme avait un comportement défini, c'est parce que quelqu'un avait, au préalable... développer ce comportement, il l'avait préprogrammé. Là, maintenant, c'est vrai qu'avec...
avec tout ce qui est intelligence artificielle, en fait, il n'y a plus... Les algorithmes, finalement, c'est plus... Il n'y a plus vraiment d'algorithme à développer. C'est, on prend un ensemble de données et, par le biais d'algorithmes, par contre, on en déduit un modèle statistique qu'on va derrière appliquer à des données similaires pour en déduire si elles sont, bah là, en l'occurrence, si c'est un comportement délictuel ou non. C'est ce genre de choses. Et on a déjà parlé de ça. Et alors, ça date, hein. C'est des mini-scandales, entre guillemets. Alors que quand on y pense, c'est quand même assez scandaleux. Les personnes, notamment les personnes noires, ne sont pas prises en compte par les systèmes de reconnaissance faciale. Des fois, elles leur disent que, bah non, votre visage. Enfin, arrêtez de mettre une cagoule. Arrêtez de masquer votre visage. C'est juste parce que, ben, ces modèles ont été entraînés sur des données de personnes de couleur blanche. Donc forcément, la couleur de la peau a influencé le modèle et ça ne fonctionne pas pour les personnes de couleur. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et là, on va avoir la même chose, mais pour faire de la vidéosurveillance, ça va être bien. C'est super bien parti. Moi, j'ai hâte.
Ah, on disait que si on n'avait rien à cacher, on n'avait rien à craindre de la vidéosurveillance.
Oui, toujours.
Alors, intelligence artificielle ou bêtise naturelle? Bêtise artificielle.
Oui, comme d'habitude.
Hallucination prédéfinie. Donc Cloudflare veut commercialiser l'indexation par l'intelligence artificielle.
Tout à fait. Bah justement, on vient de parler d'intelligence artificielle pour la vidéosurveillance. L'intelligence artificielle, c'est, on vient de le dire de manière assez simple, hein, c'est l'apprentissage par un logiciel depuis un ensemble de données pour être capable de faire les analyses similaires à celles qui ont été faites sur les données. Donc si on lui donne un ensemble de textes en anglais, il peut devenir capable de produire de l'anglais ou de comprendre l'anglais, de déduire le contexte à partir des mots qui sont employés. Et donc le cœur de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est pas seulement le calcul, c'est aussi la source de données elle-même. Et là, il y a un problème, c'est que toutes les grandes entreprises qui font de l'intelligence artificielle aujourd'hui vont pomper massivement des données sur Internet. On en a parlé il y a 2 semaines encore, Microsoft qui décide que non, il n'y a pas de copyright sur Internet. Les données sur Internet sont toutes libres d'accès, c'est bien connu. Donc, on va passer outre le fait que ça soit de la violation de propriété intellectuelle. Mais donc là, Cloudflare, donc, qui est une entreprise américaine qui est extrêmement répandue, vous n'avez pas idée le nombre de fois où vous l'utilisez, parce qu'en fait, Cloudflare fournit des serveurs à travers le monde pour les sites web qui veulent être accessibles facilement en fait, depuis l'ensemble de la planète.
Non, des fois, vous le voyez quand il y a une erreur. Alors, quand Cloudflare a un souci technique, vous voyez une page d'erreur de Cloudflare au lieu d'avoir le site internet que vous voulez consulter.
Voilà. Ou quand Cloudflare a déterminé que votre connexion était bizarre et voudrait s'assurer que vous êtes un humain et pas un robot. Et donc Cloudflare a un problème, c'est que l'intelligence artificielle, ben, comme ils vont pomper massivement les données, ben, ça fait des utilisateurs. Alors les utilisateurs, c'est les entreprises comme OpenAI, Google, Microsoft, Amazon ou autres. Et ces utilisateurs-là, ben, ils viennent consommer énormément de données et sans payer spécialement. Et derrière, les sites web en question, on ne va pas en parler non plus du fait qu'ils ne soient pas rémunérés. Et donc ce que veut faire Cloudflare, c'est rendre payante l'exploitation de ces données par les systèmes d'intelligence artificielle. Donc à suivre, on ne sait pas où est-ce que ça va aller, mais ils aimeraient servir en tout cas d'intermédiation.
S'il y a du pognon à se faire, ils veulent donc inciter les sites internet à se faire payer pour ça, et eux, ce serait l'intermédiaire. Donc,
voilà, ils vont s'enrichir.
On va profiter de leur position sur l'hébergement de site pour prendre nos petites dîmes.
Ouais, après, honnêtement, si c'est pour faire respecter justement le contenu par les fabricants d'intelligence artificielle, ben, genre les déclarations de Microsoft dont on a parlé il y a 2 semaines sur l'internet est libre d'utilisation comme ça. C'est un comportement clairement abusif de la part de Microsoft. Donc s'il y a des entreprises pour essayer de modérer leurs ardeurs, c'est déjà ça de prix. Même si effectivement...
La démarche est intéressée.
La démarche est intéressée, mais la démarche reste intéressante pour nous. Une autre. Alors...
Toujours sur l'IA, là, il y a une flopée.
Ah bah oui, on a une petite flopée. Donc on va parler un tout petit peu de AI Act. Alors l'AI Act, c'est la loi d'intelligence artificielle qui est en préparation au niveau européen. Donc on n'a pas encore tous les détails parce que c'est un gros pacte qui va être assez compliqué. C'est entré en vie... Surtout, on verra comment ça va être mis en place par les différentes entreprises. Donc ça va entrer en application à partir de février 2025. Donc, il y a 126 entreprises déjà qui ont signé le pacte en question. Donc, des grands groupes de l'intelligence artificielle, etc. Mais globalement, il y a quelques entreprises qui ne sont pas contentes. Alors, donc, sur les signataires, donc dans les grands noms, on trouve Amazon, Google, Microsoft, OpenAI. Mais il y a 2 grands absents, Apple et Facebook, qui considèrent en fait que la réglementation européenne, ça leur va pas parce que c'est contraire au modèle qu'eux souhaitent mettre en place. Ils souhaitent un modèle, en fait, eux souhaitent fonctionner dans un cadre sans la moindre réglementation.
C'est quand même souvent le cas dans les entreprises.
Oui, mais c'est pas étonnant qu'ils s'y opposent. Mais je trouve le fait que Facebook s'y oppose, c'est plutôt bon signe sur la direction que ça a pris, du coup. Parce que si Facebook avait dit oui, tout va bien. Et donc, il y a quelques interdictions, notamment que j'apprécie.
Microsoft, qui parraine de manière très appuyée OpenAI, s'y oppose pas a priori.
Non. Alors,
il y a aussi deux techniques. Hein, c'est soit je m'oppose totalement, soit je fais mine de contribuer, hein, de participer pour pouvoir orienter les choses dans mon sens et faire du lobbying.
Oui, après, ils ont quand même passé des messages pour dire que il y a des points qui les chatouillent, hein, globalement. Après, c'est sûr que c'est pas le projet le plus poussé qui soit. Mais grosso modo, il y a des classifications pour... Il y a des interdictions sur tout ce qui est catégorisation et identification biométrique. Donc ça, c'est plutôt bon signe parce que effectivement, là, en termes d'impact sur la vie privée, ça pourrait devenir ça pourrait être des solutions assez catastrophiques. Notamment tout ce qui est la création, le développement de bases de données de reconnaissance faciale par le moissonnage non ciblé d'images faciales provenant d'Internet ou de vidéosurveillance. Donc en gros, interdiction de faire une base de données des visages des gens. C'est pas plus mal, ce genre d'usage.
Surtout si on veut pousser, si les gouvernements veulent pousser la surveillance algorithmique.
Autre exemple d'utilisation qui va être interdite. Alors, en fait, il y en a pas mal. C'est vraiment, c'est un gros paquet, ce projet de loi. Il faudrait faire toute une émission sur ça, mais voilà, c'est pour dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Autre exemple de restriction qu'ils souhaitent mettre en place, il serait interdit de créer un système qui déduise les émotions d'une personne physique sur son lieu de travail ou dans les établissements d'enseignement, sauf quand c'est destiné à être mis sur le marché pour des raisons médicales ou de sécurité. Donc ça, c'est plutôt bon signe, puisque ça veut dire qu'un employeur ne pourra pas avoir à disposition un système pour détecter les employés mécontents ou les employés...
Qui a recours à des techniques subliminales au-dessous du seuil de conscience d'une personne ou à des techniques délibérément manipulatrices ou trompeuses avec pour objectif ou effet d'altérer substantiellement le comportement d'une personne ou d'un groupe de personnes en portant considérablement atteinte à leur capacité à prendre une décision éclairée. Bon, c'est un petit peu... Sur le coup, on ne comprend pas forcément bien, mais...
C'est style final, fake news, en fait.
C'est ça, c'est les vidéos, c'est presque... effectivement, enfin, je montre si Google avec YouTube ne serait pas contre. Tu mets en Facebook avec effectivement les vidéos.
Maintenant, tout dépend de la définition de technique subliminale. Et après, c'est toujours la même chose avec les lois. C'est pour ça qu'en parler, c'est un peu compliqué. Il y a la loi et après, il y a sa mise en œuvre qui va différer légèrement. Il faudra voir comment ça va être appliqué et comment le juge.
On pourrait même interdire CNews avec ça. Hein,
bon. Ah, j'aimerais bien. Et comment le juge va interpréter la loi par rapport à ce qui aura été fait par les entreprises pour dire, bon, ben, est-ce qu'ils sont allés assez loin ou est-ce qu'ils ne sont pas allés assez loin, est-ce qu'ils n'ont pas respecté l'esprit de la loi. Donc tout ça, on verra la suite. C'est pas fini, heureusement, parce qu'il y a encore beaucoup de travail autour de tout ça. Deux dernières sur l'IA, parce que ça va parler de Microsoft dans les deux cas. Donc juste une chose, Microsoft, alors comme beaucoup d'autres entreprises, ben autour de l'intelligence artificielle, il y a un truc, c'est que ça a besoin d'une quantité d'énergie colossale. On parle, si vous faites une recherche sur ChatGPT, ça consomme, je ne sais plus, 5 ou 10 fois plus d'énergie qu'une recherche identique sur Google. Ben oui, ça consomme plus l'intelligence artificielle. Et donc là, Microsoft a conclu un accord avec une centrale nucléaire, la centrale de Three Mile Island, dont on connaît.
C'est connu effectivement, dans un sens très favorable. En général,
en Europe, elle n'est pas si connue que ça. Hein, donc, juste un petit rappel, ouais. Quand même.
En général, quand une centrale nucléaire est connue, c'est rarement pour une réputation flatteuse.
Voilà, et donc celle-ci, c'est pour un accident nucléaire en 1979. Et donc, la centrale avait été arrêtée il y a 5 ans parce qu'elle était déficitaire, et donc Microsoft a négocié pour obtenir son redémarrage pour avoir un réacteur pour eux, juste pour leur usage. Donc on parle de 800 mégawatts d'électricité. Un réacteur nucléaire complet pour... une entreprise. Il y en a une cinquantaine pour la France, des réacteurs nucléaires, je crois. Si je ne me trompe pas dans les chiffres.
J'ai pas compté, mais on doit être dans l'ordre d'idée. Oui.
Voilà. C'est énorme. Juste pour l'intelligence artificielle, pour une entreprise. J'aimerais bien qu'on se rende compte du niveau d'électricité. Il y a des pays au monde où il n'y a pas d'électricité, quoi. Enfin, où l'électricité...
Ils n'exagèrent pas, quand même.
Non, mais il y a des pays où la population n'a pas entièrement accès à l'électricité. Que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud, il y a des pays où toute la population n'a pas accès à l'électricité. Et ben, nous, on va mettre un réacteur complet pour l'intelligence artificielle, pour une entreprise.
Et surtout, n'oublie pas d'effacer tes mails de ta boîte.
Ça, ne c'est... pas oublier d'effacer les mails. Et une dernière pour la route autour de Microsoft. Microsoft se lance enfin dans la recherche d'une solution pour réduire les hallucinations de ces intelligences artificielles. Donc, pour rappel, les hallucinations, ben en fait, c'est lorsque l'intelligence artificielle commence à raconter n'importe quoi, ce qui est possible, en fait, c'est des trous dans le modèle, on va dire ça comme ça. Et donc, on appelle ça des hallucinations. Et donc, ce que cherche Microsoft, c'est les détecter et les réparer, parce que, ben, effectivement, ça pose problème lorsqu'on a une intelligence artificielle avec des hallucinations.
Pour ça, ils font appel à l'intelligence artificielle.
Je sais pas. Mais en fait. C'est intrinsèque dans les modèles de langage. On ne peut pas ne pas avoir d'hallucinations, donc ça va être compliqué. Donc, ce que Microsoft va essayer de faire, c'est réduire la quantité d'hallucinations, mais ils ne peuvent pas les empêcher. Donc, ça reste la limite de ce genre de logiciel. Il faut la connaître. Il faut savoir que l'intelligence artificielle, elle est débile. C'est des statistiques. On peut faire des super choses. On peut sortir on peut produire du contenu, on peut analyser des données, on peut faire plein de choses avec l'intelligence artificielle. Mais il faut bien avoir conscience des limites de la chose avant de s'en servir aveuglement.
Ça n'invente rien.
C'est ça.
Une bonne nouvelle quand même sur le front de la vie privée qui nous vient de la Cour de l'Union européenne qui a été donc saisie par la Cour suprême autrichienne. C'était l'association Noibi, on en avait déjà parlé, puis on en a parlé plusieurs fois donc pour ses recours contre les GAFAM. Cette fois-ci, c'est Meta donc, qui s'est fait taper sur les doigts par la Cour de justice de l'Union européenne. Elle a rappelé à Meta, donc, qui est le propriétaire de Facebook, que avoir des données vieilles de 20 ans sur un utilisateur ne lui permet pas de les utiliser. Donc, ils doivent donc limiter l'usage, enfin le volume de données détenues sur une personne et donc pas s'en servir pour faire du ciblage publicitaire et notamment également ne pas utiliser l'orientation sexuelle comme données pour faire du ciblage publicitaire.
Donc, merci. C'est la moindre des choses.
C'est la moindre des choses, mais bon, il a fallu quand même que la Cour de justice de l'Union européenne le rappelle. Et merci à l'association Noibi pour son travail sur le sujet.
Juste un détail quand même, ils avaient été saisis sur la partie sur l'orientation sexuelle. La personne qui avait porté plainte n'avait jamais indiqué sur son compte Facebook qu'il était homosexuel et il s'est mis à avoir des publicités ciblées. Le sujet n'avait été évoqué que lors d'une table ronde, et on en avait parlé dans cette émission oui. D'ailleurs lorsque la plainte avait été déposée. C'était quand même assez flippant le fait qu'ils aient réussi à retrouver, à travers ce genre d'enregistrement, en extraire les données, des enregistrements, du coup, ce qui a été dit, pour en déduire que il est homosexuel, donc on va lui fournir de la publicité ciblée dans ce sens-là. C'est extrêmement grave, je trouve, d'être allé creuser jusqu'au...
D'accord, si c'est quelquefois de la publicité, c'est une chose, et on sait comment les droits des homosexuels sont peu respectés dans certains pays, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus dramatiques. On va écouter un premier morceau de musique. Oui, j'ai dit que c'était une actualité plutôt gay à la base. Enfin, gay.
Oui, bravo. Bref.
Nous allons écouter un premier morceau de musique, Vince Miranda, Mas Ala, un petit peu de latino pour une fois. Vous écoutez les Codegnous sur Radio Campus en 6,6, Radio Campusil.com et...
La radio numérique terrestre, c'est l'oubli.
Voilà, voilà.
Escucha el grito de tu voluntad. Como pide con todas sus fuerzas libertad, ponle nombre a tu felicidad. Que te quite el sueño y va dibujando una parte de ti en el libro del fin de los tiempos. Empieza a caminar. No escojas rumbo, solo déjate llevar. Si tienes mano, ofrécela a alguien más. Si tienes corazón, enséñale que amar es más que un bello momento. Es como un niño corriendo, grita. Ganas de vivir amor. Dime si has estado enamorado y la música te ha llevado a escribir una canción desde lo más profundo de tu corazón. Ese mágico momento en que tu alma se hace una con el universo. Na, 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 na. Es la voz que le canta la libertad. Na, 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 na. Es momento de hablar y decir la verdad.
C'était Vince Miranda, Mas Allah. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus en 6,6, c'est la radio numérique terrestre et campusil.com. Cette fois-ci, c'est la bonne. Vous écoutez la deuxième partie des actualités. Pierre, on va parler logiciel, logiciel libre, bien évidemment. Et on va commencer par Arch Linux, qui est soutenu financièrement par Valve. Tu vas nous expliquer pourquoi.
Alors, donc Arch Linux, c'est l'une des distributions Linux, on va dire, importantes, même si celle-là a un côté beaucoup plus technique. C'est pas une distribution qui cible l'utilisateur lambda, on va dire.
C'est pas Ubuntu.
C'est pas Ubuntu, clairement.
C'est pas, vous avez le CD.
Il n'y a plus de CD aujourd'hui. Ah.
Mais voilà. Vieux, je sais.
Voilà, on est vieux. Mais donc, Arch Linux, c'est une distribution Linux qui est assez connue pour la qualité de sa documentation, surtout. Son wiki est excellent. Et mais voilà, Valve, jusqu'à maintenant, Valve avait surtout mis en avant et aidé le projet Debian. Et donc là, Arch Linux, en fait, c'est la base sur laquelle fonctionne le Steam Deck, et donc la console de jeu de l'éditeur Valve. Et donc Valve a décidé de soutenir financièrement le projet Arch Linux sur deux éléments critiques sur lesquels, ben, s'il n'y avait pas besoin seulement de gens, il y avait besoin de pognon. Parce que ben il fallait du matériel, donc là en l'occurrence c'est pour avoir un ensemble de serveurs pour la création des paquets, la compilation et pour leur signature numérique. Donc tout ça c'est quelque chose qui était assez difficile à envisager pour un projet comme Arch Linux. Et donc là maintenant, grâce au soutien de Valve, ça va être possible et c'est une grande avancée. Et ça permet de montrer que ben des éditeurs qui aident des projets libres, ben ça existe en fait, et c'est plutôt une bonne pratique puisque ça permet à tout le monde de bénéficier de ce qui a été développé et à Valve de payer relativement moins cher pour quelque chose dont ils ont besoin. Donc c'est un exemple de bon fonctionnement du logiciel libre.
Pour une fois, c'est vrai que tu te plains beaucoup de l'utilisation de logiciel libre par l'entreprise.
Oui, l'abus en entreprise, c'est un peu fréquent.
Là, pour le coup, on a un exemple de bon élève, en tout cas sur ce point précis. La fondation...
Globalement, Valve, très bon élève. Il n'y a vraiment rien à redire pour eux.
Bulletin de Pierre. C'est un peu tôt pour les bulletins.
Mais ils font vraiment beaucoup de choses pour le libre, clairement.
La fondation FreeBSD finance un effort de 750 000 dollars. Pas tout seul, quand même.
Non, en fait, ils ont reçu de l'argent.
Et du coup, ils redistribuent une initiative qui leur plaît, donc le support des ordinateurs portables.
C'est ça. Et donc, en fait, ils ont des partenariats avec Quantum Leap Research, AMD, Dell et Framework, un fabricant de PC portable.
C'est vrai que FreeBSD, c'est quand même pas le système auquel tu veux penser en premier pour installer sur un PC portable de bureau.
Exactement. Donc, petit rappel d'histoire pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire des systèmes Unix. Déjà, des systèmes Unix donc, qui datent des années 70. Et FreeBSD est un vrai système Unix, contrairement à Linux, qui est un système non Unix qui est apparu en
c'est
parallèle.
C'est un clone.
C'est un clone, voilà. Alors que FreeBSD, c'est un vrai système qui hérite du code Unix de base.
Est-ce que Mac OS X est un vrai Unix ?
Il y a une part. Alors, il a la certification.
Il est certifié.
Il a la norme POSIX. Lui, il est certifié Linux, ne l'a jamais été. Linux n'est pas autant Unix que macOS, si on veut aller plus loin. Et donc voilà, c'est un système qui n'a jamais été finalement une alternative, que ce soit Windows ou Linux, sur les ordinateurs portables, parce que le support d'ordinateur portable, c'est quand même relativement compliqué. Il y a pas mal de choses à gérer qui sont c'est du matériel qui est spécifique et qui est pénible à gérer, que ce soit le Wi-Fi, le Bluetooth, la mise en veille, le son qui est devenu beaucoup plus complexe que ce que ça n'était il y a une dizaine d'années. On va même pas parler d'autres éléments, ça j'en reparlerai dans une prochaine émission, mais il y aura le support des webcams qui devient une tannée aujourd'hui. Bref, c'est compliqué de gérer les...
C'était déjà compliqué il y a 15 ans. Hein.
Non, là on est en train de gagner un nouveau niveau, je t'assure. Là on est arrivé à un niveau où les fabricants disent on ne peut pas faire la documentation. Voilà, ça devient vraiment compliqué.
Ils ont pas les sous, pas les gens, ils sont trop cons.
On peut pas. Voilà, on peut pas documenter ce qu'on a fait. C'est bien. Bref, pour revenir au sujet avec FreeBSD, donc avec...
C'est l'IA qui a développé le pilote.
C'est ça. Avec 750 000 dollars, donc même un petit peu plus, ils ont des, avec leurs collaborateurs, leur collaboration, ils montent presque à 1 million de dollars pour largement améliorer le support des ordinateurs portables. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, personne ne peut prédire, mais dans tous les cas, ça serait assez intéressant d'avoir au moins un système autre que Linux à mettre en avant en système libre pour les ordinateurs portables.
Alors Pierre, une petite séquence, abus de position dominante.
Ouais, il y en a eu plein dans les actualités encore ces dernières semaines.
La première, c'est contre Edge. Alors Edge, c'est quand même pas le navigateur auquel j'aurais pensé le premier pour faire l'objet d'une plainte pour abus de position dominante. Alors Microsoft a une position dominante sur un marché qui se rétrécit. Mais Edge, ils sont. Alors je connais pas, alors j'ai pas en tête les parts de marché. Je sais que Firefox a tendance un petit peu à réduire comme peau de chagrin. Mais Edge, ça dit quoi? Est-ce que le fait d'être porté par Microsoft et donc intégré par défaut dans Windows, nonobstant le ballot screen, a une vraie influence sur la popularité du navigateur?
Alors veuillez patienter s'il vous plaît. Je vais rechercher. Les parts de marché d'aujourd'hui. Alors, certes, les parts de marché de Edge ne sont pas si élevées que ça. On n'est pas sur les parts de marché qu'avait notamment Internet Explorer en son temps. Internet Explorer en son temps, c'est 80-90% de parts de marché qui était délirant. Et donc là, pour l'information, en France aujourd'hui, on est sur du 12% de parts de marché pour Edge. Et c'est un navigateur que... On n'a pas tendance à vouloir. Enfin, c'est pas un navigateur qui est connu par le.
Ah, Firefox, c'est encore 20%. J'avais cru que c'était vraiment passé.
Non.
En désuétude, pas quand même. Non, mais moi, j'avais vraiment peur qu'on était dans les 5-10%.
Bah, en fait, si, on est sur les 5-10%, mais là, j'ai pris uniquement les ordinateurs de bureau. Si tu prends les téléphones portables, ça change les chiffres.
Oui,
hein, n'oublie pas ça.
Oui, d'accord.
Et donc, Edge, en fait, bénéficie à la fois d'une préinstallation sous Windows qui, ça fait que. C'est difficile de concurrencer. Aucun autre navigateur n'est préinstallé.
3% pour Opera, mine de rien.
Hein. Ouais, ils survivent. Et donc, à contrario, donc aucun navigateur n'est préinstallé. Et en plus, une fois que vous avez choisi un autre navigateur par défaut sur votre ordinateur, il y a plusieurs éléments dans Windows qui vont quand même renvoyer dans Edge par défaut. On en a déjà parlé dans plusieurs émissions. C'est compliqué de retirer, de masquer complètement Edge de votre ordinateur, même si vous voulez utiliser un autre navigateur. Donc, les éditeurs d'autres logiciels estiment que c'est un abus de position dominante. Ce qui est. C'est un abus de position dominante sur les systèmes d'exploitation qui permet d'essayer de prendre pied dans un autre marché. Donc, c'est la définition d'abus de position dominante. Donc, on verra ce que ça va faire. Je rappelle qu'il y a.
Ça rappelle le bon vieux temps des Internet Explorer.
Mais j'allais dire, ça rappelle le vieux temps du ballot screen, ils appelaient ça, qui avait été imposé au niveau européen à l'époque de Windows 7 et qui n'existe plus. Il avait été imposé pour une durée de 5 ans.
Je parlais du ballot screen.
Il a été imposé pour 5 ans seulement, je crois, à l'époque.
D'accord.
Et donc, il a contribué largement au déclin d'Internet Explorer.
Attends, ça fait 15 ans, 20 ans que j'ai pensé à la Windows, donc forcément.
Voilà, forcément, tu l'as pas vu, je l'ai déjà vu une ou deux fois. Donc, ça a permis d'expliquer. En fait, lorsque vous installez votre ordinateur, au lieu de vous dire, hop, le navigateur Internet, c'est ça, ça vous dit, vous pouvez utiliser différents navigateurs Internet, en voici quelques-uns. Rien que ça, ça avait contribué largement à diminuer la présence d'Internet Explorer en Europe. Et donc, les éditeurs aimeraient que ce genre de solution revienne, puisqu'elle est à nouveau en vigueur sur les téléphones portables.
Alors, Epic contre Google et Apple, on a déjà parlé, je pense, de...
Oui,
Epic, c'était plutôt contre Apple, d'ailleurs, je me souviens.
C'était plus contre Apple, mais ça continue quand même aussi globalement contre... En fait, c'est contre le fonctionnement au niveau des plateformes mobiles. Alors, donc, contre Apple, on en a déjà beaucoup parlé, ça a été extrêmement compliqué. C'est ce qui fait que le jeu Fortnite n'est plus disponible sur iPhone, en tout cas plus dans l'App Store, donc très compliqué l'installation. Et donc là, ils ont lancé leur propre magasin d'applications pour iOS en Europe pour pouvoir installer donc leur jeu, donc Fortnite comme ça. Et ils ont quand même des problèmes avec Google et Samsung sur Android parce qu'ils estiment que ça met trop de barrières encore à l'installation d'applications avec des magasins tiers. Puisque ben, ils ne souhaitent pas payer forcément la dîme colossale qu'exigent ces grands éditeurs pour leur marché d'application.
Il existe un magasin tiers qui est F-Droid.
Exactement.
Pour mettre ses applications libres sur un système Android.
Oui. Et juste au passage, dans leur plainte, un petit acte qu'ils ont fait, ils ont rappelé qu'au tout début de l'existence d'Apple, dans la vision initiale de Steve Wozniak, Apple souhaitait que les utilisateurs aient une liberté complète sans restriction par la moindre entreprise sur l'utilisation de leur machine. Effectivement, avec les plateformes mobiles, à commencer par Apple, mais effectivement avec Google maintenant aussi, qui a le même comportement sur Android, on est sur des plateformes où l'utilisateur n'a pas le moindre contrôle et où tout est dans le fruit des décisions d'Apple et de Google.
Et ça, c'était l'un des cofondateurs qui était Steve Wozniak. L'autre Steve Jobs, qui a fondé Apple avec lui, n'était pas vraiment de cet avis, en tout cas, à partir du lancement de l'iPhone.
Après, petit rappel tout de même sur l'histoire de l'iPhone. Je rappelle qu'au début de l'iPhone, l'App Store ne devait pas exister.
Oui, tiens, je ne savais pas.
Enfin, tu l'as oublié, en fait. L'App Store ne devait pas exister sur les iPhones. On était censé utiliser des applications web développées et optimisées pour les mobiles. Et devant le non-engouement que ça a été, et surtout le risque que, effectivement, des concurrents apparaissent sur le marché du mobile et qu'ils n'aient pas la possibilité de se différencier par les applications à cause de ça, ils ont choisi d'investir à fond. C'est à partir de la version 2 d'iOS, je crois. Ils ont décidé de rendre possible l'installation d'applications tierces et d'investir à fond, finalement, dans les applications spécifiques à la plateforme. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui avec la situation où, ben, si vous voulez des applications mobiles, vous avez Android ou iPhone et vous n'aurez jamais rien d'autre.
Dans la série L'hôpital qui se moque de la charité, Google se plaint du cloud de Microsoft.
Et de leurs pratiques anticoncurrentielles surtout. Et effectivement, mais il y a de quoi. Je le comprends, en fait. Quand on regarde, ben là, ce qui se passe, c'est que Microsoft demande beaucoup plus cher pour les licences Windows notamment, si vous utilisez le cloud d'un concurrent. Vous pouvez payer moins cher votre licence Windows et vos services Microsoft sur le cloud Microsoft. Est-ce que c'est légal ?
Ils font une promo sur... Ouais, ça dépend comment tu dis comme ça. Bah après, si vous hébergez chez nous, je vous fais une promo. Ça passe mieux.
Ben ouais,
ça dépend de comment tu l'expliques.
Oui, ça dépend de comment tu l'expliques. Mais voilà, on tombe à nouveau sur les mêmes problèmes. Microsoft exploite largement son cloud Azure pour mettre en avant ses propres services et ses propres produits. En fait, essayer d'attirer un maximum d'entreprises dans son giron et de leur retirer la moindre envie d'aller voir ailleurs. C'est logique, le fait que ce soit logique, ça n'en fait pas quelque chose de légal. Et effectivement, est-ce qu'on est dans le cadre de l'abus de position dominante ? Ce sera à la justice de répondre.
Merci Pierre. Quelques nouvelles sécurité après un deuxième morceau de musique. Nous allons écouter Eder, Heatmap. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslib.com.
Throw them.
C'était Eder, Right Map, un petit peu New Wave, un peu sound-pop sur les bords, cette chanson. Vous écoutez les Codecs, nous, sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campusstyle.com. On va lancer la troisième partie des actualités, sécurité.
Et divers.
Et divers, et variés. Et au niveau de la sécurité, donc, il y a, si vous suivez un petit peu l'actualité de la sécurité, notamment sous le Linux, c'est l'actualité de Linux, des systèmes d'exploitation en général. Il y en a une qui fait un petit peu du teasing, ou plutôt du bruit. J'essaie de trouver un équivalent français, mais là pour le coup j'étais peu inspiré. Donc c'est la faille de CUPS, qui est donc l'utilitaire d'impression sous Linux. Hein.
Pas que.
Common Unix, ouais. Unix, voilà. Printing System.
Common, donc il est commun à plusieurs systèmes Unix, dont macOS. Merci.
Effectivement. Ah oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé Linux du coup. Alors je ne sais pas s'ils sont sur les mêmes versions.
Alors ben, je peux détailler. Justement.
On va détailler Pierre puisque tu vas nous expliquer cette actualité.
Tout à fait. Donc CUPS, le système d'impression de Linux. Alors on va parler un petit peu tout à l'heure de pourquoi c'est compliqué les imprimantes. Hein. C'était l'occasion. J'avais l'intention d'en parler prochainement. Ben voilà. Ça va être l'occasion. Et donc le système d'imprimante sous Linux, il est assez pratique, il a été conçu avec l'idée de rendre ça simple pour l'utilisateur final. C'est-à-dire que si vous avez une imprimante que vous branchez sur votre ordinateur, pouf, l'imprimante apparaît automatiquement. Si vous avez une imprimante qui est branchée sur votre réseau, pouf, elle apparaît automatiquement et vous n'avez même pas à configurer les pilotes, etc. Très pratique, très très pratique.
Ouais, ça c'est la théorie.
Là, arrête, laisse-moi mon sujet de tout à l'heure.
Excusez-moi, tu voulais pas.
Pas créer mon sujet. Et donc, la difficulté, par contre, dans les systèmes complètement automatiques, c'est que Ben ouais, mais qu'est-ce qui se passe si en fait c'est pas une imprimante, c'est un méchant qui est venu. Et donc il y a plusieurs problèmes qui étaient présents, donc dans le système de découverte et d'installation automatique d'imprimante. Il y a le fait que ça acceptait des connexions depuis le reste d'Internet s'il n'y avait pas le moindre filtrage entre les deux. C'est le cas par défaut aujourd'hui sur la plupart des box Internet, mais il y a quand même des cas où on pouvait brancher notre ordinateur sur un réseau et potentiellement se faire avoir comme ça. Si des personnes avaient installé CUPS sur un serveur, donc si sur un serveur vous avez besoin d'imprimer, envoyez-moi un mail pour m'expliquer pourquoi vous avez fait ça, et je vous expliquerai que c'était une mauvaise idée. Et surtout, vous n'avez pas besoin du système d'installation automatique d'imprimante, donc ça n'était vraiment pas une bonne idée. Ce système-là était désactivable. Et donc il y a plusieurs failles, donc quand on les enchaîne, ça permettait d'installer automatiquement une imprimante sur une machine, et lorsqu'on essayait d'imprimer sur cette imprimante, le pirate pouvait prendre le contrôle de la machine à distance. Alors, c'est quand même pas une faille aussi critique que votre ordinateur, on en prend le contrôle et puis c'est marre. Il faut quand même encore des actions de la part de l'utilisateur et c'est pas si simple que ça à exploiter. Et surtout, la règle habituelle s'applique. Ouais. Appliquer les mises à jour. Point. Et par contre, petite blague qui fait que moi, ça me fait un peu grincer des dents. C'est que, effectivement.
N'empiète pas sur ton propre sujet, Pierre.
Non, là, on va parler juste de la faille de sécurité. Effectivement, les systèmes macOS n'ont pas été impactés par cette faille, alors qu'ils utilisent le même logiciel.
Et pourquoi donc?
Ben là, j'ai envie de dire, c'est un truc que j'apprécie pas trop, et qui a heureusement changé récemment, mais c'est pas encore. On n'a pas encore obtenu tous les résultats de ça, c'est que CUPS, pendant plusieurs années, a été développé uniquement par Apple. Et en fait, si le code était encore libre, la licence...
Ils ont forqué.
Non, ils n'ont pas forqué. Ils ont repris le projet, ils ont recruté les développeurs du projet. Sauf que du coup, les ressources étaient allouées pour améliorer le projet en priorité pour Apple. Et donc, il y a tout un ensemble de fonctionnalités de sécurité notamment qui n'ont jamais été implémentées que pour macOS. Voilà. Donc en fait, sur macOS, les failles de sécurité en question, même si elles existent, elles ne sont pas exploitables. Alors que les systèmes de sécurité n'ayant pas été développés pour la version Linux, ben, les failles de sécurité sont exploitables. Voilà. Je vais pas dire que c'est de la malveillance, mais c'est de l'irrespect, je trouve, ce genre de situation.
La CNIL irlandaise, plutôt, l'équivalent irlandais de la CNIL, Commission, avec mon magnifique accent anglais, a donc infligé une sanction de 91 millions d'euros à Meta. On vient d'en parler, il y a quelques minutes, qui est la maison mère de Meta, pour avoir stocké des millions de mots de passe, donc des services Facebook et Instagram qui appartient également à Meta, en clair.
Voilà.
Alors, je savais pas que, déjà pour une PME, ça craint, mais pour un groupe comme Meta, je comprends même pas comment tu stockes des mots de passe en clair.
Alors, pour leur défense, entre guillemets, en fait, juste un rappel déjà, en informatique, effectivement, on ne stocke jamais un mot de passe en clair. On stocke un mot de passe qu'on appelle haché, et quand on prend le mot de passe, quand on se connecte sur un site, hop, on tape login, mot de passe, on envoie le mot de passe. Le mot de passe est effectivement envoyé au serveur destination, mais là, la règle fondamental, c'est le mot de passe doit rester en mémoire, il passe dans une fonction pour être haché, et on compare ce hash avec le hash tel qu'il est dans la base de données. Et la propriété des fonctions de hash, c'est que la même entrée produit toujours la même sortie, mais de la sortie, on ne peut pas déduire l'entrée.
Donc le hash, c'est une fonction mathématique.
Exactement.
Dont on peut difficilement avoir la réciproque.
Voilà, c'est en plus mathématique, c'est comme ça qu'on le dit. Et donc, Meta n'a jamais stocké les mots de passe en clair dans ses bases de données. Ça, ils n'ont pas fait cette erreur-là, heureusement. Là, sinon, c'était humiliation en place publique. Vraiment, là, on était sur un niveau inadmissible. Mais par contre, ce qui s'est passé, c'est que là, dans ce que j'expliquais, vous envoyez votre mot de passe sur une page web, le mot de passe arrive sur le serveur en face, et ça reste en mémoire. Mais ce qui s'est passé, c'est que là, le serveur en face, il faisait « Alors attends, je vais juste enregistrer dans un coin, donc il y a quelqu'un qui vient de se connecter à ma page et il a envoyé ça comme paramètre à la page. »
Et donc, les paramètres, il y avait
Les paramètres, login, mot de passe. En fait, c'est un système de log qui a été mal réglé, qui n'a pas été réfléchi jusqu'au bout.
Ouais, alors des logs avec des logins, mot de passe.
Ah sinon, ça arrive malheureusement plus souvent qu'on ne le pense, mais là, le fait que ça soit arrivé pour une société comme Facebook, c'est inadmissible.
Qu'on fait un minimum de sécurité sur un système, comme un truc que vous avez vérifié, ça.
Ah oui, oui. Non, mais je prends pas plus leur défense que ça. Hein. J'ai juste dit, ils sont pas allés jusqu'à l'humiliation en place publique, mais ils ont quand même bien foiré leur truc.
C'est gros quand même.
C'est gros quand même.
Et moi, surtout, passe en carte dans les logs, j'avoue que.
Moi, surtout, ce que je ne comprends pas. Ah oui, il y avait plus de 20 000 employés de Meta qui étaient en théorie capables d'accéder aux logs en question.
Ça pique.
Donc ça pique. Ça s'est accumulé entre 2012 et 2019. 7 ans de mot de passe. Donc sachant qu'en plus, si vous repérez des gens qui changent leur mot de passe de temps en temps, vous pouvez comprendre la logique de leur mot de passe. Et seulement 91 millions d'euros d'amende, ce qui n'est absolument rien pour Facebook. Et ça, c'est la CNIL irlandaise. Merci à eux.
Bon, après, est-ce que la CNIL française aurait fait plus?
Je sais pas, mais la CNIL irlandaise a quand même une longue tradition et toutes les autres.
C'était assez conciliant parce que. Voilà.
Toutes les autres CNIL en Europe se plaignent de la CNIL irlandaise justement pour son laxisme.
On avait déjà parlé. On passe aux news diverses et variées. Pierre, tu veux parler de KDE, tu aimes KDE. KDE est ta vie. Pas toute ta vie, mais quand même. Même partie.
20 ans.
Et donc, poste ses objectifs pour l'année 2026.
Tout à fait. Donc,
ce qui est déjà une belle anticipation.
C'est ça, mais en fait, le projet KDE a décidé d'avoir des cycles de 2 ans et de se fixer des objectifs et de donc, se donner 2 ans pour les atteindre. Et donc là, les nouveaux objectifs. Alors, les objectifs qui avaient été choisis donc, pour les 2 années qui précédaient, c'était l'accessibilité donc, pour les personnes handicapées, comment le traduire en français déjà ? Je sais plus. Tout ce qui est automatisation, systématisation du processus de fonctionnement de KDE, et je sais plus traduire le dernier. Et donc là, les objectifs à venir seront a priori la mise en avant d'applications vraiment de champions dans le projet KDE, améliorer le processus de développement.
Les champions dans des applications.
Des applications
d'affiches.
Vraiment,
des
têtes d'affiches, oui. Améliorer le processus de développement, ce qui n'est pas plus mal, effectivement, puisque ça permettra évidemment de créer des meilleures applications et donc éventuellement des nouveaux champions, ceci, cela. Et améliorer, alors celle-là, elle va être un peu rigolote, améliorer le support de différents périphériques d'entrée, donc que ce soit. Un clavier, même si un clavier ça date, hein, il y a toujours des trucs qu'on peut améliorer, que ce soit clavier, souris, et le support de solutions plus originales. Alors on peut parler de tablettes, d'écran tactile, ça devient assez courant, mais de tablettes, de consoles de jeux.
Par exemple, comment ?
C'est pas le périphérique d'entrée, on en parle tout à l'heure.
Effectivement, on parlait des périphériques d'entrée. Il y avait un piège, Pierre. Une dernière pour la route avant
Une toute dernière.
Une toute dernière.
Donc on va parler un tout petit peu d'Intel, c'est une grosse nouvelle du monde de l'informatique. Intel pourrait se faire racheter.
Et pourtant, alors, Intel, c'était quand même le leader du microprocesseur, c'est eux qui ont inventé le processeur pour ordinateur.
C'est ça, donc Intel en fait a fait une série de mauvais choix stratégiques ces dernières années, et là, ils en ont fait tellement de mauvais ces dernières années que, c'est pas une blague, Intel pourrait se faire racheter par ARM ou Qualcomm. Les deux commencent à pousser pour racheter Intel par morceaux ou complètement. Là, j'en parle parce que c'est qu'une rumeur, donc j'en parle juste comme ça, là, en fin de brève. Il n'y a pas de concret. Mais rien que le fait qu'on commence à parler de ça aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé ?
On commence à parler dans les milieux autorisés.
C'est un rachat comme ça, c'était inenvisageable il y a ne serait-ce que 2 ans, mais Intel a perdu tellement d'argent, la valeur de l'entreprise a fondu, Intel a dû faire des licenciements en masse, c'est assez incroyable. On en arrive au point qu'effectivement, Qualcomm, donc fabricant de puces pour mobile, pourrait racheter Intel. C'est ce qui serait une révolution dans le monde des puces pour ordinateurs et même toutes les puces globalement.
La dégeekalisation, c'est après un morceau de musique, c'est après Kerry, Welcome to Hell. Vous écoutez les Codex News sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique terrestre et campusil.com. My world is on fire, I don't recognize this place anymore. Flames climb higher, we back to where we've been before. I'm running in circles, drowning in light. Madness and welcome to hell.
to hell. My world is in darkness. It feels like we all falling down a hole. Please don't grow heartless. Don't let the demons enter your soul. I'm running in circles, drowning in lies. People around me are hypnotized. Indifference has become a trend. What if we are already dead? Welcome to hell. Everyone here's under a spell. They tell me don't yell. There's no one you could ask for help. But I'm so sick, I'm so tired of ignoring that it's all going wrong. And I can't get it out of my head. Perhaps it will end well before now. Welcome to hell. Everyone seems under a spell. They tell me don't yell. There's no one you could ask for help. Welcome to hell.
C'était Kerry, Welcome to Hell. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus en 6,6, c'est la radio numérique. Et restez campusil.com, c'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous. C'est l'heure de la dégicalisation. Ce titre sera chanté. Reviens, oh, IPP,
non, non.
Reviens.
Ah, non, je fais plus de jeu de mots si tu fais ça. Hein.
C'est bon. Pourquoi ?
Bon, donc, reviens, IPV revient. En fait, on va parler un petit peu d'imprimante. Hein, on en a parlé avec la faille de Cups, mais je me suis dit que c'était l'occasion, je voulais en parler. J'avais prévu de faire ce sujet-là prochainement, donc c'est l'occasion. Qu'est-ce que c'est que ce tout le bazar autour de l'impression ? Pourquoi que c'est compliqué ?
C'est vrai que, maintenant je peux le dire, l'impression sous Linux, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille.
C'est, mais que ce soit sous Linux, Windows, macOS, c'est pas un long fleuve tranquille.
Ouais, enfin Linux, c'est toujours...
Non, mais aujourd'hui, c'est la même galère que ce soit sous Linux ou sous macOS. Honnêtement, on est arrivé à ce point-là. Et
comme les gens n'ont plus d'imprimante, de toute façon.
De toute façon, les gens n'ont plus d'imprimante, effectivement, ça a aidé. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que tout ce bazar ? Et donc, on va remonter un petit peu l'histoire de l'imprimante, notamment, pour comprendre pourquoi on a tout ça. Parce que, finalement, aujourd'hui... Quand on branche une imprimante, enfin, pourquoi est-ce que quand on branche une imprimante, c'est pas comme une clé USB ? Parce que quand on branche une clé USB sur notre ordinateur, on la branche et ça fonctionne tout de suite. Il y a même pas de pilote spécifique au fabricant ni rien. C'est simple. Eh bien, aujourd'hui, quand on branche une imprimante sur notre ordinateur, la base même, donc quand on la branche en USB, la base même, la communication entre les deux, elle se fait avec une norme. Il n'y a pas besoin de pilote pour la communication. Vraiment la façon de communiquer entre les deux. Mais les instructions, la langue elle-même de la communication, elle est propre à chaque fabricant d'imprimante. Il y a des normes, mais tous les fabricants ne l'implémentent pas, et c'est pour ça que c'est toujours le bazar. Remontons dans le temps. Donc, au tout
pas forcément les mêmes, parce que du coup, on doit quand même choisir son imprimante, son modèle.
Attends, on n'a pas fini, on va en parler de tout ça après. Donc, on va d'abord parler d'il y a longtemps, avant Jean-Claude. Il y a longtemps, donc dans les années 70, l'apparition des imprimantes pour ordinateurs, à l'époque, chaque imprimante avait son propre logiciel. Voilà, on parlait de rien d'autre parce que, de toute façon, c'était tellement compliqué, on n'avait pas les ressources matérielles, point.
Puis il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs.
Non,
il n'y avait pas beaucoup d'imprimantes.
Il n'y avait pas d'ordinateur de bureau, on parlait de, tout ça n'existait pas. Dans les années 80, est apparu PostScript, un langage de description de page, on appelle ça, donc c'est pour faire de la mise en page, créé par Adobe, qui est connu pour le PDF, et sont apparues des imprimantes, notamment les imprimantes laser, qui utilisaient toutes du PostScript, et donc on leur envoyait des pages décrites en PostScript, et ces imprimantes imprimaient en comprenant le langage, et elles disaient « Ok, je dois mettre ça à tel endroit, ça à tel endroit de la page, voilà la page. » Sauf que faire des imprimantes comme ça, ça coûtait plus cher qu'une imprimante bête et méchante qui prenait des données déjà digérées par un ordinateur. Et donc, on a eu une division à ce moment-là entre deux classes d'imprimantes. Les imprimantes professionnelles cher, mais qui marchait très bien, avec du PostScript ou plus tard avec d'autres solutions, on en parlera un petit peu après, et les imprimantes pour les gens lambda, ou les imprimantes à prix raisonnable.
Pour les particuliers.
Pas que pour les particuliers, aussi pour les PME ou les TPE. On va pas payer une imprimante plusieurs dizaines de milliers d'euros quand on peut en avoir des moins chers. Et donc ces imprimantes-là qui avaient besoin de logiciels pour traduire, l'ordinateur devait faire tout le travail de mise en page pour finalement envoyer, c'est comme envoyer juste des images à l'imprimante. Forcément, cette solution technique-là demandait d'avoir des pilotes spécifiques à chaque système. Et d'ailleurs, lors de la guerre, à la fin des années 80, début des années 90, la guerre des systèmes d'exploitation à l'époque où Microsoft cherchait à imposer Windows, l'un des arguments phares de Windows, c'était la présence au sein de Windows de centaines de milliers de pilotes d'imprimantes. Parce que justement, les imprimantes à l'époque, c'était ultra spécifique et Microsoft avait fait beaucoup de travail pour avoir un maximum de pilotes.
Oui, mais en général, il fait quand même utiliser le CD-ROM fourni avec l'imprimante. Alors,
ça, c'est aujourd'hui. À l'époque, on ne parlait pas de CD-ROM. Ça n'existait pas. Et donc, on va faire un flash rapide maintenant, surtout que je n'ai pas tant de temps que ça pour cette décalisation. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a encore de tout ça? Eh bien, on continue d'avoir des imprimantes qui ne parlent que leur propre langue, même si elles sont un peu moins fréquentes aujourd'hui. Déjà parce que le langage PostScript, c'était cher à implémenter avec le matériel de l'époque. Il y avait des licences qui coûtaient cher. Aujourd'hui, les imprimantes parlent le PDF, format que tout le monde connaît. Il y a beaucoup d'imprimantes, notamment des imprimantes en réseau. Si vous n'avez même pas besoin d'installer de logiciel sur votre ordinateur, si vous connaissez l'adresse de l'imprimante, vous pouvez lui envoyer directement le PDF à la bonne adresse et elle imprime toute seule. C'est magique. Et c'est de plus en plus fréquent. Et on a des normes qui sont apparues, notamment IPP et IPP Everywhere. Alors IPP, c'est Internet Printing Protocol, qui est apparu dans les années 90 pour régir la façon de parler aux imprimantes. Et après, l'évolution donc notamment qui a été impulsée dans IPP Everywhere, c'est imposer une façon de communiquer complète, y compris la mise en page. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pour beaucoup d'imprimantes, vous branchez et ça juste marche, quel que soit le système. Alors oui, il y a des résistants, je ne vais pas m'amuser à chercher, mais il y a des marques où c'est assez connu que ces marques-là continuent de faire des systèmes où ben, ils ont fait un pilote pour Windows et ils ont testé qu'avec Windows et tout marche bien. Parce que ben, forcément, Microsoft ne va pas dans cette direction-là. Apple et Linux, si, ils vont dans cette direction du IPV Everywhere. Et pour donner un petit côté utile du coup à cette dégeekalisation, je voudrais juste faire un petit élément, une petite aparté sur, ben du coup, par rapport à ce que j'ai décrit. On peut envoyer un PDF directement à l'imprimante, sur la plupart des imprimantes modernes. Et les systèmes d'impression modernes sont tous basés effectivement aussi sur du PDF. Donc lorsque vous êtes sur LibreOffice, vous traitez un document, vous faites fichier imprimé, ça génère un PDF qui est envoyé à l'imprimante telle qu'elle.
Et l'imprimante a besoin d'avoir les polices ?
Les polices sont embarquées dans le PDF. C'est le seul critère. Vous avez les PDF, la plupart du temps, embarquent les polices. Et la blague qu'il peut y avoir, c'est que des fois, vous allez avoir des fichiers PDF que vous allez essayer d'imprimer et ça ne va pas marcher.
Et pourquoi ?
Et pourquoi ? Eh bien, parce que votre imprimante, elle a peut-être un bug dans son support du PDF. Donc, vous avez un fichier PDF que vous ouvrez dans votre lecteur de PDF, vous faites imprimer et l'imprimante plante. Ou l'imprimante n'imprime rien. Ou l'imprimante met 10 minutes à sortir une page. Où l'imprimante affiche un message d'erreur en rouge au milieu de la page. Tout ça sont des cas que j'ai déjà eus. Et donc, petite astuce pour que cette dégéalisation serve à quelque chose, en fait, dans certains lecteurs de PDF, notamment Ocular sous Linux, il y a une option d'impression pour forcer la rasterisation, ça s'appelle. Et donc, dans ces cas-là, au lieu d'envoyer un PDF, ça envoie des images, et l'imprimante, on lui demande de faire un truc bête, et là, la bêtise, elle sait faire. L'intelligence du PDF, elle a eu plus de mal.
Et les déguisations sont toujours utiles, Pierre, elles sont un minima instructives. Merci Pierre pour donc cette déguisation. Un point sur l'agenda, donc à mon show mercredi Linux, mercredi 16 octobre, de 19h à 20h30, à Orchi, un Reaper Café, samedi 19 octobre de 14h à 17h. C'était le 274e numéro de l'écho des Gnous. On se retrouve dans deux semaines, nous serons donc dimanche 20 octobre. Dans une semaine, ce sera la deuxième ligne, émission consacrée au jazz de la Nouvelle-Orléans. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Chupa Pimento, comme tous les dimanches à 20h. Au revoir à tous, merci, bonne fin de week-end.
Bye bye.
Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur.